I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux, et vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Jihen Abdelilah, sacrée championne du monde de France et d'Europe de grappling en 2014 et 2015, puis championne de France de MMA en 2014. En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, Jihen enseigne les sports de combat à la Sorbonne et est la créatrice de la Jihen Academy, une structure unique de coaching à travers laquelle elle s'engage pour le développement de l'empowerment féminin. Avec Jihen, nous avons parlé de la place de la femme dans les sports de combat et la sortie de zone de confort que ces sports peuvent avoir sur les femmes au quotidien. Bonjour Jihen.
Bonjour Laura.
Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de votre parcours très inspirant sur vraiment toutes les thématiques de sortie de zone de confort. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui découvrent cet épisode et vous par la même occasion?
Et ben déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast parce que c'est vrai que c'est un podcast qui est très inspirant et je suis très honorée de pouvoir me présenter aujourd'hui et présenter un petit peu tout ce que je fais. Donc moi, je m'appelle Jihen. Alors les gens me connaissent de par mon parcours un petit peu sportif, même s'il a commencé très tard. Je suis championne du monde de grappling, donc c'est un sport de combat qui est un petit peu la partie sol du MMA et je suis également combattante professionnelle de MMA. Et à côté de ça, je suis également enseignante, donc j'enseigne à la Sorbonne, à Paris, et je suis également auto-entrepreneur dans le milieu du coaching et présidente d'une association qui s'appelle la Jihen Academy, qui est une association dédiée au sport de combat pour les femmes. Voilà, donc ça fait plein de choses en même temps. J'en ai bien rempli, mais...
Ouais, j'ai l'impression, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais justement, c'est intéressant. On va revenir sur toutes ces casquettes et comment elles s'articulent toutes dans votre vie. J'ai envie de revenir d'abord sur une phrase que j'ai trouvée sur votre compte Instagram où vous partagez pas mal de photos inspirantes de vos coachings, justement, de votre vie, pas mal de techniques, un peu de tips, développement personnel, et on en parle beaucoup, c'est vrai, sur ce podcast. Et cette phrase sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est « Si votre présence n'a pas d'impact, alors votre absence ne fera pas la différence ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez voulu dire par cette phrase, qu'elle évoque pour vous ?
Oui, alors je trouve que c'est une phrase qui est très puissante et très inspirante, qui parle un petit peu de l'impact qu'on peut avoir au quotidien, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et c'est une citation que je donne régulièrement aux femmes avec qui je travaille, que je coach, à certains hommes aussi, mais c'est quand même plus parlant pour une femme. Et en fait, c'est une manière de dire que si vous êtes quelque part, mais qu'au final, on ne vous remarque pas, ne soyez pas étonnés que quand vous êtes absent, il n'y a pas la différence. Soit vous faites partie de ces personnes qui sont remplaçables dans la vie, soit vous partez du principe que vous, quand vous êtes là, il n'y a personne qui peut vous remplacer. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose, vous allez chercher à exceller, vous allez chercher à marquer les esprits et vous allez chercher à montrer que vous êtes unique et singulière. Et c'est un petit peu cet état d'esprit que j'aime développer un petit peu chez les personnes que je coach. Avoir de l'impact, être présent, donc ça ne veut pas forcément dire le côté agressif, requin, rentre dedans, mais le côté vraiment charismatique. Tout ce que je fais, je le fais bien, j'excelle dans mon domaine. Et le fait de se dire, nul n'est irremplaçable, mais moi j'ai une plus-value en plus, je suis quelqu'un d'unique, donc ça va être compliqué de me remplacer.
D'accord. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. J'ai l'impression, du coup, on va y revenir, bien sûr, hein, dans l'interview, mais qu'il y a aussi cet aspect, parce qu'il y a cet aspect physique, en fait, que vous enseignez, mais il y a aussi, j'ai l'impression, du coup, cet aspect psychologique, confiance en soi, empowerment, et c'est vachement intéressant, en fait, de lier les deux. J'ai envie de revenir sur vous, votre parcours, qui a commencé donc quand vous étiez jeune, quand vous étiez, je crois, enfant. J'ai lu dans une interview que vous disiez « Depuis que je suis petite, je sais que je suis hors norme physiquement. Je crois que j'ai toujours voulu devenir championne. » C'est assez incroyable pour une enfant d'avoir ce rêve de devenir justement championne. Est-ce que vous pouvez justement me parler de l'enfant que vous étiez et ce déclic un peu pour le sport, tout simplement? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient de ce que vous regardiez petite? C'est vachement intéressant, je trouve, de savoir ça.
Ouais, alors c'est un petit peu particulier parce que le sport, moi j'ai pas choisi de faire du sport. Ce sont mes parents qui m'ont mis au sport très jeune, à 5 ans. Donc j'ai commencé par la gym et ensuite je suis passée par l'athlétisme et après bien plus tard dans les sports de combat. C'est vrai que petite j'avais cette force physique qui est quand même assez exceptionnelle pour une enfant de mon âge et je l'ai gardée jusqu'à mes 18-19 ans, qui faisait que quand j'étais sur une activité physique, aucun garçon, voire personne, ne pouvait me battre. Et c'est vrai que quand on trouve quelque chose dès qu'on est enfant, où on excelle, où on est doué, et où je savais qu'on n'allait pas venir me comparer aux autres, parce que j'ai quand même grandi avec une maman qui avait tendance à toujours me comparer avec ma sœur, à toujours me comparer un petit peu avec les autres. Oui, elle a fait ça. Et là, il y avait un domaine où, au final, personne pouvait venir me dire elle a fait ça parce que j'étais la meilleure. Ouais. Donc, je crois que c'est quelque chose qui, dès petite, m'a donné de la confiance en soi. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression comme ça que je suis quelqu'un qui déborde de confiance en moi, mais moi, j'ai extrêmement confiance en moi dans les domaines que je maîtrise. Et les domaines que je maîtrise, ce sont les domaines sportifs. Donc dans ces domaines-là, j'étais plutôt confiante et sereine, alors que dans la vie de tous les jours, quand on me croisait, j'étais plutôt la jeune fille discrète qui s'effaçait, qui n'avait pas trop de lien social avec les autres et qui était très très réservée. Et en plus, contrairement à moi, j'avais certes une grosse force physique, mais j'étais très fragile en termes de santé. Parce que j'étais très anémique, on m'appelait cachet d'aspirine quand j'étais petite, donc j'avais plein de prises de sang à faire régulièrement. Mais voilà, je crois que quand on trouve sa passion dès qu'on est petite et qu'on arrive après à monétiser sa passion comme j'ai pu le faire aujourd'hui, c'est plutôt positif. Et le sport, ça fait partie de ma vie, ça fait partie aussi du lien que j'ai avec mon père, parce que j'ai commencé le sport avec mon père, toutes les activités physiques que je pouvais faire, c'est avec lui. Regarder le sport à la télé, c'était avec lui. Les films de sport de combat, de Bruce Lee, etc., ben c'est des souvenirs que j'ai aussi avec mon père. Donc, je crois qu'il y a un petit peu un mélange de tout ça. Et quand on secoue très fort, ça donne JN.
Ouais. Et comment, du coup, parce que c'était la gym, du coup, quand vous étiez petite. Après, je crois que vous êtes devenu professeur de sport, donc pas forcément destiné encore au sport de combat. Quel a été du coup ce chemin de devoir devenir prof de vouloir devenir prof de sport et après découvrir les sports de combat en fait et ce qui vous a plu dedans? Ce qui est assez, bon, c'est pas original pour une femme, parce que je sais qu'il y a pas mal de catégories, aujourd'hui, de femmes dans les sports de combat, mais c'est quand même pas non plus extrêmement courant, en fait. C'est pas ce à quoi on pense directement.
Ah oui, c'est pas anodin pour une femme d'être dans les sports de combat. Et moi, j'aime à dire que quand je rentre dans une salle de sport de combat ou quand je commence le MMA, c'est un peu un acte politique de ma part, même si c'est pas conscient. Là maintenant, avec le recul, je réalise que c'est un petit peu un acte politique de ma part qui veut dire je vais aller dans un milieu, moi en tant que femme, je vais aller dans le milieu le plus macho entre guillemets qui existe, là où une des valeurs sûres c'est la force physique, et je vais m'imposer dans ce milieu là donc c'est c'est un peu cet état d'esprit que j'ai depuis longtemps. Alors ouais, j'ai commencé par la gym. La gym, j'étais très mauvaise. mais par contre, mes premiers diplômes d'entraîneur que j'ai passé, donc moi je suis entraîneur fédéral en gymnastique depuis que j'ai 16 ans, c'est justement en gym. En fait, j'ai toujours voulu enseigner et transmettre. Donc mes premières sections féminines fitness, j'avais 16 ans, donc ça devait être en 97. Donc, on peut dire que je suis un peu une pionnière aussi dans ce domaine-là. Ensuite, je suis passée par l'athlétisme. Donc là, j'étais déjà au lycée. J'ai performé aussi à très, très haut niveau en athlée jusqu'à ce que je sois à la fac et qu'on doive m'opérer de l'épaule parce que j'avais un problème à l'épaule, un problème mécanique. Et du coup, après cette opération qui s'est passée tout de suite après le CAPES. Donc, le CAPES, c'est le diplôme pour être prof de PS. Donc, j'ai terminé le CAPES. Une semaine après, l'opération était programmée. Et là, on me dit que je ne pourrai plus jamais faire de sport de ma vie. Que j'ai, en fait, c'est anatomique. Voilà, c'est comme ça. Mon corps est comme ça. Et je ne pourrai plus jamais rien faire. Et c'est vrai que pendant 8 ans, j'ai vécu l'enfer parce que la douleur était toujours là. Parce que j'ai dû avoir le statut de travailleur handicapé au sein de l'Éducation nationale. Je ne pouvais plus du tout lever mon bras. Donc, c'était assez...
Vous étiez fait mal, en fait, par le sport, en fait. C'est la gym qui avait fait cette douleur, qui avait provoqué cette douleur?
Non, c'était l'athlétisme, en fait, qui a réveillé un petit peu tout ça. Parce que moi, j'étais lanceuse de javelot.
Ok.
Ouais, moi, j'aime bien tous les sports un peu doux, un peu... donc, voilà. Et quand on lance à répétition... un engin à plus de 50 mètres, il y a de quoi se bousiller l'épaule. Et au final, c'est même pas le sport, hein, c'est que mon corps était comme ça. Donc pour moi, c'était la deuxième baffe, parce que la première baffe, ça a été ce que je vais découvrir beaucoup plus tard, qui est dû à des douleurs récurrentes où j'ai l'impression que mon corps me rejette. C'est le début de l'endométriose. Et la deuxième fois où j'ai l'impression que mon corps me dit, en fait, on a l'impression que mon corps veut pas de moi, c'est cette partie où on me dit, d'un point de vue anatomique, vous n'êtes pas faite pour faire du sport à haut niveau. C'est bon, stop, faut arrêter. Donc ça a été un véritable enfer pendant 8 ans. Et je crois que j'ai réalisé, en fait, en donnant les cours avec mes élèves à Sartrouville dans un lycée pro, parce qu'avant, j'étais pas encore à la Sorbonne, que ce côté sport ludique, et aussi j'ai découvert avec mes élèves que je pouvais faire du sport différemment, du sport bien-être certes, mais s'amuser dans le sport, et qu'il n'y avait pas que le côté performance. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre. Donc j'ai repris contact avec un kiné à côté de chez moi, et on a fait un gros travail avec lui en physiothérapie, en réapprendre aussi à engager son épaule correctement, et moi de mon côté en crossfit à la maison où je m'étais équipée, et j'ai pu retrouver cette mobilité de l'épaule que je n'avais plus, et surtout les douleurs ont disparu. Donc ça, c'était moi, ça a été une grande bataille. Et après donc ça, c'était un bout de temps. Donc moi, je suis prof déjà depuis un moment, et je commence les sports de combat à 33 ans, 34 ans. Donc le grappling et le MMA, j'en avais fait un petit peu à la fac, mais voilà, après bon, j'ai eu ma blessure, donc voilà, et je reviens à ce que j'ai toujours aimé, même si je pouvais pas pratiquer, parce que mon père m'avait toujours dit, tu feras des sports de combat quand tu quitteras ma maison. Je pense qu'il avait peur pour moi.
Il avait peur, ouais.
Ouais,
bien sûr.
Ouais. C'était la bagarre. Je me suis dit, waouh, je vais pouvoir, même si à la base, ça s'est pas fait comme ça, mais j'ai enfin réalisé un de mes rêves et qui était de pouvoir faire des sports de combat. Et c'est l'époque où il y a le MMA. Donc moi, j'ai toujours regardé tous les sports de combat à la télé. Quand j'étais étudiante, moi, j'allais pas en soirée étudiante. Je rentrais de l'entraînement et je regardais les combats toute la nuit sur Canal. Et je me dis, bah, le MMA, ça regroupe tous les sports de combat qui m'ont fait rêver depuis que je suis gamine. Il y a du kung-fu, du karaté, de la boxe, du muay thai, de la lutte. C'est génial. Donc, autant faire ça, quoi.
D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était un acte politique de commencer, en fait, ça, d'aller à fond dans ces sports de combat. Je trouve ça hyper intéressant, d'avoir un discours autant, en fait, engagé. Mmh. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, en fait, sur vraiment le ressenti de faire ça et de commencer ça en tant que femme ?
Ben, en fait, je me suis construite avec l'idée de, si je voulais faire les choses comme je voulais le faire, en tant que petite fille, je ne pouvais pas le faire, parce qu'à chaque fois que j'entendais, que je disais « je veux faire ça », on me disait « non, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas un garçon ». Est-ce que je peux sortir ? Non, parce que t'es pas un garçon. Est-ce que... Non, t'es pas un garçon. Donc, j'ai grandi avec l'image de... En fait, un garçon, c'est génial. Et être une fille, bah, c'est nul. On peut rien faire. Et pendant très longtemps, j'ai grandi avec ce truc où je détestais être une fille, en fait. Je voulais pas être une fille. Et je comprenais pas, en fait. Pourquoi on m'interdit ça ? Parce que... Moi, juste me dire... C'est parce que tu n'es pas un garçon, ça m'a rendu dingue, et encore aujourd'hui, hein, c'est des trucs qui qui m'ont vraiment frustrée quand j'étais jeune fille.
Ouais.
Et j'ai grandi un petit peu dans cette image de la femme, en fait, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de ci, c'est quelqu'un de ça, et je voulais pas être ça. Voilà, je voulais pas être ça, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai développé aussi cette force pour prouver que j'étais pas. Moi, je suis pas une femme faible, je suis pas une femme fragile. Et après, j'ai compris en grandissant, en m'épanouissant aussi, en découvrant ma féminité, qu'au final, ces images qu'on me donnait, c'était pour me mettre dans une case. C'était pour rentrer un petit peu dans ce qu'on attend d'une femme au niveau social. Le schéma classique, tu vas à l'école, tu fondes ta famille, tu fais tes enfants, tu rentres à la maison, tu t'occupes, machin. Moi, mes parents, ils rêvaient que je sois fonctionnaire. Et je l'ai fait parce qu'ils se disaient, bah, quand t'es une femme, c'est génial, tu vas pouvoir avoir ta vie de famille parce que t'es prof, tu termines à 17h, t'as les vacances, tu peux t'occuper des enfants. Mais au final, être une femme, c'est pas que ça. Et j'ai découvert des personnalités, même si j'ai pas les noms, de femmes qui justement incarnaient cette puissance-là et qui se battaient pour d'autres femmes. Et je me suis dit, mais en fait, Jeanne, t'es à côté de la plaque. C'est eux qui veulent te faire croire qu'une femme, c'est fragile, parce qu'on veut avoir le contrôle sur toi, on veut contrôler ce que tu veux faire. Mais être une femme, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, tu as deux possibilités. Soit tu continues ta petite vie comme ça, soit tu te bats et tu te lèves et tu te bats pour les autres femmes, pour leur faire comprendre, hey, les meufs, faites ce que vous avez envie de faire. Levez-vous, battez-vous.
Ouais.
Et c'est un petit peu comme ça quand je rentre dans une salle. Et moi, ça me fait rire quand j'entends, encore hier à l'entraînement... Ouais, non, mais JN, c'est une meuf, on va y aller doucement. Et le coach qui rigole et qui lui dit, alors je t'explique, s'il y a bien quelqu'un avec qui il faut pas y aller doucement dans la vie, JN, quoi. Donc, garde tes stéréotypes misogynes. JN, elle est en face de toi, il n'y a pas de différence ici. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a que des combattants.
C'est clair. Et du coup, est-ce que je voulais vous demander, du coup, quand vous vous êtes lancé à cœur et corps perdu dans les sports de combat, vos proches, votre famille, elle vous a soutenu dans cette démarche, du coup, vos parents qui avaient un peu peur pour vous, ou ils ont compris en fait au fur et à mesure l'importance que ça avait pour vous et l'importance que ça a aussi dans la société, et ça, on va en parler aussi dans cette interview.
Ah, malheureusement non, parce que Quand je rentre dans la salle de sport et que je commence en fait les sports de combat, à la base, je devais accompagner un élève qui devait se lancer dans le MMA, que j'avais repéré au lycée. Et en fait, le jour où j'arrive, je crois qu'une semaine avant, j'ai été victime d'une agression raciste où je me fais percuter par une voiture alors que je suis sur un passage pour piétons, parce que la personne estimait que j'avais mis trop de temps pour traverser devant lui et qu'il fallait que je retourne dans mon pays. Et j'arrive en fait dans cette salle avec beaucoup de rancœur et je comprends pas en fait cette société où on peut m'agresser comme ça et que ma plainte disparaisse, etc. Et quand je commence je reprends donc à 33 ans, c'est surtout parce que j'en ai gros sur la patate et que j'ai besoin d'expulser tout ça aussi. Mais mes parents sont pas du tout au courant, ma famille n'est pas du tout au courant. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est quand même, on est quand même très réservé sur les sentiments. Il y a des choses qu'on ne montre pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, quand ça va pas, j'ai tendance à le garder pour moi et à pas forcément le dire. Mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose. Je pense que mes parents ne comprendraient pas. Pour eux, je suis juste quelqu'un qui adore les sports de combat. Mais ils se rendent pas compte que derrière, en fait, il y a tout cet engagement féministe et politique que je peux avoir. Et je pense que c'est des choses, de toute façon, qu'ils ne comprendraient pas de par notre culture et nos origines. J'espère que, par contre, mes neveux et mes nièces vont comprendre cet engagement dans lequel je suis et vont avoir l'audace de porter aussi ce genre de discours quand ils vont grandir.
Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on s'imagine bien, parce qu'on va parler un peu plus justement de ces sports de combat, de comment ça se passe aussi sur un ring, de ce qui se passe, des rapports aussi entre les sportifs, nous expliquer la différence entre le grappling, le MMA et la boxe?
Alors, la boxe, il existe différents types de boxe. Donc, il y a la boxe où on n'utilise que les poings. Donc, ça va être la boxe anglaise. Et ensuite, il y a des boxes où on va utiliser les pieds et les poings, comme le K-1, le Muay Thai, la boxe chinoise, la boxe française aussi. Donc, voilà. Ensuite, le grappling, c'est un sport où on va utiliser... Donc, c'est un sport un peu de lutte. On part debout. On va pouvoir saisir la personne qu'on a en face de nous. On va pouvoir la projeter au sol. Donc, l'amener au sol. Et de là, on va pouvoir la soumettre grâce à des clés de bras, des étranglements, des clés de genoux. Donc, le but du jeu, c'est de gagner soit en soumettant la personne. Donc, elle tape pour dire stop, je peux plus rien faire, j'ai perdu. Soit en marquant des points avec des positions. Et le MMA, en fait, ça va regrouper tout ça. Donc, MMA, c'est Mixed Martial Art. Donc, arts martiaux mixtes. Donc là, il y a tous les sports de combat qui peuvent exister. Et qui a sa propre logique interne et voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, vous faites les trois, vous pratiquez les trois à titre professionnel. Moi, la question que je me pose, c'est, il y a plusieurs questions en fait. Mais tout d'abord, c'est comment on se prépare en fait, comment on s'entraîne à de tels combats. Qui peuvent être extrêmement violents quand on voit les images. Comment on travaille? Est-ce qu'il y a des techniques aussi on parle beaucoup de développement personnel, de techniques, visualisation, méditation, sur le podcast aussi. Comment en fait on se prépare aux conditions de lutte, quoi? Est-ce que vous avez des lectures? Est-ce que vous avez des pensées particulières? Est-ce que vous avez des mentors? Comment ça se passe, toute cette préparation en fait avant un combat?
Alors, la prépa. En fait, dans les sports de combat, quand on a une date définie pour un combat, on a une grosse préparation physique qui va se faire à peu près 2 mois et demi avant le combat. Donc voilà, sachant que toute l'année on s'entraîne et ce qui va vraiment nous conditionner, ça va être tous les sparring, toutes les mises de gants qu'on a tous les jours à l'entraînement. Donc c'est la première partie, c'est ça en fait, tous les apprentissages techniques, toutes les oppositions qu'on va pouvoir faire. Tout au long de l'année. Ensuite, à l'approche du combat, on a 2 mois et demi où on va se préparer beaucoup plus dur, mais là on va vraiment travailler sur le physique pour avoir le cardio nécessaire pour tenir les combats. Un combat de grappling, c'est 1 fois 5 minutes par exemple. Un combat de MMA, c'est 5 fois 5 minutes ou 3 fois 5 minutes. Donc c'est quand même très très long et il faut travailler aussi l'endurance musculaire, la puissance, etc., etc. Donc c'est 2 mois et demi où il va falloir avoir le niveau physique pour le jour J être explosif, performant et endurant. Mais il va falloir aussi commencer à descendre en poids parce qu'il y a une autre réalité aussi dans les sports de combat, c'est qu'il faut être dans la bonne catégorie de poids. Donc très souvent, on a sur ces 2 mois-là, on a à peu près 10 kilos à perdre.
Ah oui, quand même.
Quand même, ouais. Mmh. Ouais. Et ouais, entre 8 et 10 kilos. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on se prépare. Donc, c'est 2 mois qui sont très, très intenses, où c'est très, très dur physiquement. Les mises de gants s'approchent un petit peu de la réalité. Et ces 2 mois-là sont beaucoup plus durs que le combat en lui-même. On sait, une fois qu'on est arrivé à la pesée la veille du combat, qu'on est au poids, qu'on a fait le plus dur. Et derrière, ça va être beaucoup plus facile. Et après, bah ouais, il y a une partie où il va falloir la visualisation dans ces sports-là, c'est très important, mais ça va surtout être la répétition et les automatismes. Il va falloir aussi analyser l'adversaire, mettre en place un game plan. Donc ça, c'est tout un travail d'équipe. Et puis moi, c'est une période où j'aime bien avoir des lectures un petit peu qui vont me pousser à la réflexion, comme L'art de la guerre, comme L'alchimiste. C'est des œuvres que j'aime bien relire à ces moments-là. Et après, tout le reste se fait avec l'équipe. Et parce qu'on n'est pas tout seul hein, dans la prépa. On a tous nos sparring, on a les coachs. Mais c'est très, très intense. C'est quelque chose à vivre. C'est ne serait-ce que de l'extérieur et de pouvoir regarder, en fait.
Ouais, bien sûr. Et à quoi on pense lorsqu'on combat? Enfin, à quoi quand on veut, enfin, finalement, c'est un peu l'instinct de survie, puisque l'idée c'est de mettre KO l'autre, l'autre personne. Donc, enfin, comment ça s'appréhende, en fait, ça? Comment, je sais pas si vous pouvez un peu développer, en fait, cette partie-là, en fait, de au moment, en fait, du combat.
Bah, en fait, c'est un peu... moi, je le vois pas différemment qu'un match de foot, en fait. On a en face de nous un adversaire. Et bah, au foot, c'est soit il marque plus de buts que moi, soit c'est moi qui en marque le plus. Et bah, en boxe, ça va être pareil. Soit c'est moi qui marque les points, soit c'est moi qui frappe la première, le plus dur, le plus précis, soit ça va être elle. Donc, en fait, dans la tête, on a un peu conditionné. Ces 2 mois de préparation physique, en fait, ils servent à ça, où on va exacerber un petit peu... notre motivation, ce côté un peu, on a tellement souffert pendant la prépa, etc. Et à une semaine du combat, on coupe tout pour justement laisser un petit peu le temps, donc perdre les derniers kilos sans trop se fatiguer et laisser un petit peu le manque arriver. Donc quand on arrive au combat, on est un petit peu en manque. On a passé 2 mois, je sais pas si on voit un petit peu l'image, mais on a passé 2 mois où on nous a un peu comme un lion en cage, quoi.
Ouais, exactement.
Conditionné, et le jour J, bah, il faut y aller. Alors après, c'est vrai que il faut réussir à vaincre sa peur, il faut réussir à maîtriser ses émotions. Il faut aussi se dire, faut pas sortir du combat. C'est-à-dire que si je prends un mauvais coup, il faut pas que je sois dans l'orgueil à essayer de. Non, il faut que j'arrive à rester calme, lucide. Il faut que j'arrive à entendre mon coin pendant le combat, parce que c'est lui qui va me guider, en fait. C'est les coachs qui vont être dans mon coin et pour pouvoir appliquer mon game plan. Mais je crois que la meilleure façon de se préparer, c'est de se dire, c'est pas compliqué, soit c'est toi qui donnes, soit tu reçois.
Ouais.
Moi, je préfère donner parce que je suis très généreuse.
vous avez remporté de nombreux titres, vous avez été sacrée championne du monde, de France et d'Europe de grappling en 2014 et 2015, championne de France en MMA, de MMA en 2014, donc en tout 12 titres à votre actif, si je ne me trompe pas. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, pourquoi JN en fait a gagné et pourquoi pas finalement vos adversaires? Qu'est-ce qui a fait votre différence?
Ah, je crois que, alors des titres, j'en ai bien plus si on cumule ceux que j'ai pu avoir en gym et en athlée.
Ouais.
Ça, c'était le côté un peu, je me la raconte. Mais, mais je crois que c'est parce que je suis dans la compétition depuis que je suis toute petite. Mes premières compétitions, je les ai commencées à 6 ans. Et pour moi, en fait, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Donc déjà, ça, c'est une chose qui fait que je vais toujours me donner les moyens d'être plus que prête le jour J. Et après, je crois que c'est une question de détermination et de volonté. Parce que moi, quand je commence le grappling, j'ai 33 ans et je deviens championne du monde en moins de 2 ans de pratique. Et face à des filles qui ont un palmarès dans ce milieu-là, en termes de titres de championne du monde, etc., l'italienne et la russe, qui étaient mes deux adversaires principales, parce que les autres, elles n'avaient pas forcément de palmarès, et je les ai sorties assez facilement. Elles sont là, elles ont un nom, elles ont des ceintures de couleurs. Donc moi, je suis ceinture blanche, elles ont des ceintures marron, ceintures noires. Et en fait, la seule différence, c'est que ce jour-là, j'avais décidé que c'est moi qui gagnerais, en fait. C'est vraiment une question de détermination et de se dire... Avant la finale du championnat du monde, je monte dans ma chambre parce que j'ai envie de pleurer. Et je me regarde dans le miroir et je me dis, mais tu te rends compte, Jeanne, c'est ton rêve, en fait. T'as toujours voulu être là, t'as toujours voulu être championne du monde. Donc, à un moment donné, c'est soit tu chiales là et tu restes dans ta chambre, soit tu descends et tu vas faire le taf. Et en fait, c'est cette détermination. Il y a aussi la préparation physique. J'ai la chance d'avoir un coach qui est super intelligent parce que quand j'arrive techniquement par rapport à ces filles-là, on va pas se mentir, je suis nulle. Je suis nulle dans le sens où j'ai pas autant de bagages techniques qu'elle. Mais par contre, j'ai une force. Je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais très bien faire et je sais comment amener dans l'opposition ce que je sais faire.
Ouais.
Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec mon coach. Je sais faire ça, ça, ça et ça. On va travailler qu'avec ça. Ton jeu, ça va être que ça. Et du coup, je me suis appuyée sur mes qualités. Je me suis concentrée sur ce que je sais faire. Parce qu'au départ, on est toujours en train de se dire « Ouais, mais ça, je sais plus comment faire, ça, je sais pas faire, ça. » Il y a toujours ce passage-là où je me dis « Hey, Jen, le même discours que je tiens à mes coachés, il y a plein de choses que tu sais faire. Arrête de te concentrer sur ce que tu sais pas faire, on s'en fout, en fait. Qu'est-ce que tu sais faire ? Et ce que tu sais faire, tu sais bien le faire, et tu vas descendre et tu vas le faire. » Et je crois que c'est ça qui fait la différence à un moment, en fait.
Ouais, c'est vachement intéressant. Donc, comment j'ai envie aussi de parler, bah voilà, de le fait d'être une femme dans un sport d'homme. J'imagine que c'est pas tous les jours facile. Est-ce que pour vous, ça a été une force ou plutôt une faiblesse dans votre discipline?
Ah, alors ça dépend. Il y a eu plusieurs épisodes. quand on est dans une team comme celle où je peux être aujourd'hui, la Hatch Academy ou le Congo Smashing Club où j'ai fait mes débuts, les personnes qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui sont bienveillantes et qui veulent que votre bien. Donc ça, c'est assez rassurant. Mais en fait, on va pas se mentir. Quand une femme arrive dans une salle de sport de combat, c'est la seule nana. En face, il n'y a que des mecs qui sont gonflés d'ego et de testostérone. Et la première chose qu'ils vont penser, c'est qui est-ce qu'elle vient pécho aujourd'hui ? Bah, en fait, non, je ne suis pas venue pécho. Je suis venue pour m'entraîner et je suis venue pour progresser. Et par contre, il y a une autre réalité aussi dans la continuité de ça. Si tu es une femme et que tu es débutante et que tu n'as pas de niveau et que on va un petit peu t'utiliser, on va essayer de te charmer, on va essayer un petit peu de... Et en fait, on va être dans un rapport dominant-dominé. Mais par contre, quand on est comme moi et qu'on arrive et qu'on a déjà un niveau et que physiquement, on est là en face, ben, les mecs, en fait, tout de suite, ils vont prendre du recul. Ils vont se dire « Ah, waouh !» Alors attends, parce qu'elle, en fait, elle ne blague pas. Elle sait ce qu'elle fait et en plus, si ça se passe mal, elle a du répondant. Donc ça, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a aidée. Mais quand je vois d'autres personnes qui sont passées par ces sports de combat, je vois souvent des femmes arriver. Je vois aussi l'attitude des jeunes hommes à leur égard. En plus, via les réseaux sociaux, maintenant, on voit un petit peu tout ce qui se passe.
Ouais.
Donc du coup, je vois un petit peu comment ils se comportent avec elles. Et c'est le genre de comportement qu'on n'a pas avec moi. Et après, quand on arrive à mon niveau aussi, et assez rapidement, on va faire naître aussi... un peu de jalousie, un peu de comment une femme peut être meilleure que moi, comment une femme peut être meilleure préparateur physique que moi, comment elle peut... Et ça, ça m'a valu des attitudes pas très sympas de la part des athlètes qui étaient en équipe de France avec moi, de la part aussi du CFG, le Comité français de grappling, qui est sous l'égide de la Fédération de lutte, donc en gros ma fédération, où j'ai essuyé des insultes, où il y a eu des vidéos sur moi qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, où on se moquait de moi. J'ai été agressée par toute l'équipe à Rome, en plein aéroport, moi, devant tout le monde. Ensuite, on m'a agressée une deuxième fois. Le deuxième championnat du monde, je passe complètement à côté parce que je suis dans cette histoire où, en fait, j'ai une équipe de France qui est en permanence agressive avec moi, où j'ai quand même un mec qui me dit devant le président de la Fédé... je vais te frapper comme une pute. Moi, c'est des choses qui sont assez violentes. Et en fait, quand on est dans ce milieu-là, il y a un code aussi. Alors, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez, entre guillemets, ghetto, qui est assez populaire. Et quand moi, j'arrive et que je dis, mais en fait, moi, je vais faire une lettre de mise en demeure pour dire à la Fédé, vous devez appliquer votre règlement et je vais porter plainte pour harcèlement, on me dit, mais arrête, ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir voulu faire selon leur code parce que ça m'a valu de perdre 2 ans où j'ai eu du mal à m'en remettre. Ben, il a fallu que je me retrouve une équipe, etc. Mais il y a aussi ce côté-là, quoi, encore aujourd'hui.
Mais hein. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose, en fait, les femmes, entre guillemets, elles n'ont pas le droit de porter plainte. Enfin, en fait, elles n'ont pas le droit de suivre une procédure, en fait.
On va les dissuader. On va les dissuader. Ouais. Dans le milieu, on a tous eu courant d'histoires qui se sont passées il y a quelques années dans un autre club. Et moi, je suis dégoûtée de savoir que ces nanas-là, elles ont disparu du circuit MMA français féminin, alors que c'était... en tout cas pour une très grande combattante qui aurait pu faire de grandes performances, parce qu'on est dans ce truc où, en fait, quand on est dans ce milieu, quand on est une nana, on est toujours vu comme une source de problème. Et du coup, on va te dire, non, vas-y, laisse tomber, ou alors on va dire, ben voilà, il y a une meuf et elle fout la merde. Mais en fait, non, je ne fous pas la merde. Ouais. Je suis en train de vous expliquer qu'il s'est passé des choses... assez grave et que c'est pas normal. Maintenant, vous me dites non, JN, ça sert à rien de fonctionner comme ça. Laisse faire, laisse parler. Mais les gens ne savent pas en fait comment moi je ressens la chose et comment je les vis et comment. Et on va pas se mentir. Si j'ai entamé une psychanalyse aussi, c'est en partie à cause de tout ça parce qu'il y a un moment c'était trop lourd pour moi. J'ai gardé des choses en moi où je me suis dit mais en fait j'aurais jamais dû quoi. J'aurais dû m'écouter moi parce que la meilleure personne qui peut savoir ce qui va me faire du bien et ce qui va être juste pour moi, c'est moi et c'est pas eux. J'ai pas les mêmes codes qu'eux. Moi, j'ai pas grandi en banlieue. Si eux, c'est normal qu'un mec fasse une vidéo en disant ouais, vous inquiétez pas, Jane, on a géré son cas, plus jamais vous la verrez en équipe de France. Moi, je suis pas d'accord en fait.
Ouais, on est encore très 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 loin de l'égalité homme-femme dans le sport, quoi.
Sur les papiers, ça arrive. On y est presque. Dans le milieu du MMA, l'égalité sur le papier, elle existe. Par exemple, à l'UFC, qui est la plus grosse organisation de combat au monde, les salaires, que ce soit pour un homme ou pour une femme, sont calculés exactement de la même manière.
D'accord.
En plus, c'est un sponsor unique, donc il n'y a pas de souci. Sur d'autres organisations aussi, il y a une ligue de combat qui est très très réputée aussi, qui est l'antichambre de l'UFC, qui s'appelle l'Invicta, qui est faite que pour les femmes. Donc ouais, on y arrive. En grappling, pas du tout. Moi, j'ai eu des... Bon, en France, c'est différent. Mais je me rappelle d'une organisation en France qui organisait donc un championnat de grappling. Donc c'était un truc privé avec des primes. Donc le vainqueur remporte la ceinture et 500 €. Le deuxième, il gagne 300. Et pour les femmes, une ceinture. J'appelle le mec et je lui dis, attends, je crois qu'il y a un problème. C'est quoi les primes pour les femmes? Ouais, déjà, on vous fait un truc, on vous met sur la carte. Ah ouais, bah alors écoute, efface mon nom, parce qu'en fait, il y a un moment donné, le mec qui va remporter le tournoi, il va s'entraîner autant que moi. Je vais m'entraîner, et on est d'accord qu'en termes de travail, en termes d'entraînement, on va faire exactement la même chose. On va se préparer exactement de la même manière pour arriver là. Pourquoi lui serait payé et pas moi? Et ça, il y a encore des trucs comme ça où on ne comprend pas. Où je me suis vue aussi à une compétition où j'étais en débardeur et short avec un legging dessous où on est venu me dire de mettre un t-shirt parce que j'allais frustrer les mecs. Donc il y a des trucs comme ça,
c'est dingue.
Où ça n'avance pas. Donc il y a d'un côté, quand on regarde au-delà de la Méditerranée, ça commence à avancer pas mal et c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, en France, on est encore un petit peu en retard, même s'il y a plein de changements dans plein de sports en France, comme le handball, comme le foot aujourd'hui, comme le tennis, donc ça c'est plutôt bien, mais dans ces sports-là, ça met du temps et je suis contente qu'il y ait des femmes fortes comme Estelle Mosley qui fait changer les choses, comme Sarah Ouramoun qui fait aussi changer les choses, et moi un petit peu de mon côté aussi qui commence à faire bouger tout ça.
Et bah, justement, c'est une super transition, vous avez créé justement JN Academy.
Ouais.
Qui est une structure de coaching à travers laquelle vous vous engagez pour le développement de l'empowerment féminin. justement. Donc, vous commencez aussi à faire bouger les choses à votre manière, à votre échelle, et c'est top. Comment cette idée, elle a émergé? Bon, j'imagine par rapport justement à tout ce que vous venez de nous raconter, mais est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu la genèse du projet et en quoi consiste la structure?
Ouais, alors en fait, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une véritable demande quand plein de clubs de MMA différents m'ont contacté pour donner des cours à des femmes. Mmh. Donc j'ai bossé dans plein de salles différentes, très connues sur Paris, où je donnais des cours de MMA féminin. Et en fait, je voyais ce que ça apportait aux femmes, ce côté où on allait pouvoir, après une séance, se sentir complètement vidée, complètement relâchée, donc être complètement déstressée et pouvoir attaquer un petit peu sa semaine de manière un petit peu plus sereine. Je me suis dit, putain, c'est quand même cool ce que ça fait chez ces nanas-là. Elles sont de plus en plus positives dans leur attitude, mais même dans leur posture, je voyais des changements. Au départ, j'avais des nanas qui arrivaient tête baissée, épaules rentrées, pour pas qu'on voit, des nanas super fières qui étaient là, qui étaient même prêtes à aller faire des entraînements avec les mecs. Donc je trouvais ça plutôt pas mal, même au niveau de ce qu'on va pouvoir appeler l'autodétermination, en fait, cette capacité de gagner en confiance en soi. Parce qu'en fait, le MMA, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de sports différents dans le MMA, il y a plein de techniques différentes. Donc ça veut dire que c'est pas un truc spécialisé où on va attendre une seule réponse. Donc quoi qu'il arrive dans le MMA, tu peux trouver une solution et tu peux même inventer une solution à partir de choses qu'on t'a apprises. T'as mal passé la clé, mais au final, t'as quand même réussi à la finaliser parce que tu l'as adaptée à comment ton corps a bougé à ce moment-là, comment le corps de l'adversaire a bougé, et de se dire qu'il n'y a pas de situations qui sont fermées. Ouais. Tout est ouvert, tu peux toujours. Et ça, c'est quelque chose aussi qui permet de gagner en confiance en soi et qu'on peut, après, de manière transversale, basculer dans sa vie professionnelle et personnel, et de se dire, il n'y a jamais une issue, c'est jamais sans issue, en fait. Je peux trouver une solution. Je vais prendre le temps, je vais chercher, je vais trouver, mais je vais trouver une solution. Mais par contre, dans ces clubs-là, les horaires qu'on proposait aux nanas, le type de cours qu'on me demandait de faire, je trouvais que ça ne correspondait pas au public féminin et à la demande. C'est-à-dire, oui, qu'on prenait les cours masculins et on voulait faire la même chose pour les nanas. Ouais. Je me suis dit, non, en fait, ça peut pas marcher. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer mon académie, où moi, je vais utiliser une pédagogie qui va être différente. Les femmes, elles n'ont pas envie de faire de l'opposition, 90 minutes d'opposition. Bon, 90 minutes, j'exagère. Mais sur une séance d'une heure, elles n'ont pas envie de faire 40 minutes d'opposition directe, en fait, parce que ça les frustre, ça les bloque. C'est pas ce qu'elles ont envie d'apprendre. Elles ont envie d'apprendre des techniques, elles ont envie de répéter les techniques, elles ont envie de les tester dans des situations où elles sont en confort. Donc réduire un maximum les incertitudes pour qu'elles se sentent bien. Et aussi, quand on donne des cours à des femmes, on peut pas faire un cours de 18h à 19h ou de 18h à 20h. Moi, la plupart des femmes à qui je m'adresse, qui ont plus de 17 ans, souvent elles sont mamans, donc à 18-20h, c'est l'heure des devoirs, c'est
ouais,
du
des bébés. C'est l'heure, ouais, bien sûr.
C'est l'heure de faire un projet, c'est l'heure. C'est pas un créneau qui convient aux femmes. Et puis quand je leur propose un créneau le samedi, moi j'ai pas envie qu'elles me disent en fait, Jen, là je peux pas venir parce que j'ai personne pour garder mes enfants. Mais viens avec tes enfants, en fait. Ramène tes petits, ils vont être sur le côté. Et même ça, quand les enfants regardent leur maman faire, elle me dit, mais même mon rapport avec mon enfant a changé, parce que j'avais tout le temps l'impression d'être là pour le gronder, pour machin. Et quand ils me voient me dépasser, hyper motivée, aller jusqu'au bout, j'ai l'impression que mon enfant me regarde différemment. Je dis, bah oui, ton enfant te regarde différemment parce qu'il voit, en fait, que tu es capable d'appliquer pour toi ce que tu lui demandes pour lui, de pas lâcher. Puis il voit une maman guerrière, quoi. Elle est en cœur, elle est en train de faire des trucs de fou. Et pour un enfant, moi, t'es devenue sa héroïne.
C'est clair.
Héroïne. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est un petit peu cette logique-là que j'ai envie d'apporter dans mon académie.
Et les nanas qui viennent prendre des cours avec toi, elles viennent avec des problématiques particulières, parce qu'en fait, j'ai reçu sur mon podcast Priscilla, qui a créé l'application John the Sorority, qui est une application, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une application qui vient en aide aux violences faites aux femmes, qui permet en fait de d'activer en fait un réseau de femmes autour de toi, autour de vous. C'est une application de géolocalisation. D'accord. Et comme ça, dès qu'il y a une agression faite aux femmes, dès qu'il y a une violence dans le métro, dans la rue et même chez soi, il y a des femmes qui peuvent venir en aide en fait autour de nous. Donc c'est une application qui est vraiment géniale, enfin qui est même exceptionnelle, qui est d'utilité publique. Est-ce que les femmes, elles viennent avec des problématiques parfois voilà, pour se battre en cas de violence, ou pour avec quel style de problématiques elles viennent, ou juste pour apprendre en fait ce sport et se dépasser?
Alors en fait, les problématiques qu'elles vont avoir, moi je vais pas les connaître au départ. Elles vont toutes venir avec la même motivation de pratique, se défouler, se déstresser. Si jamais il se passe quelque chose dans la rue, pour apprendre à me défendre. Donc moi je leur dis toujours, par rapport à ce côté défense, c'est que la première option, quoi qu'il arrive, c'est de fuir. C'est jamais de chercher l'opposition. Mais par contre, quand on fait beaucoup de sports de combat, on a une posture. La personne, elle va voir en face de soi qu'il y a une posture, en fait. Il y a des, je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelqu'un qui m'agresse dans la rue verbalement. La manière dont je vais lui tenir face, la manière dont je vais tenir son regard, etc., va faire que le mec, il va se dire, ah ouais, en fait, elle, c'est pas une victime. Je vais peut-être pas l'embrouiller, parce que j'ai l'impression qu'elle a du répondant. Et après, ce que je leur apprends aussi par rapport à ce côté défense, c'est qu'en fait, plutôt que d'aller chercher des cours de Krav Maga où on va vous apprendre à stopper une agression sur un coup, parce que ça n'existe pas. C'est faux. Mmh. On stoppe pas quelqu'un qui vous agresse avec un seul coup. C'est faux. Les coups de couteau, vous ne les verrez jamais arriver, parce que le couteau, il est toujours caché. La personne, elle ne brandit pas son couteau comme dans un film d'horreur. Et en l'espace de 7 secondes, la personne, elle peut vous mettre jusqu'à 15 coups de couteau. Mmh. Donc, c'est des choses, en fait, qu'on veut vous faire croire, parce que ça va vous amener, en fait, à prendre une licence, ce genre de choses. Mais dans la vraie réalité, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il y a des choses à connaître. La distance. Oui. Si je veux être sûre de ne pas me prendre de coups, etc., il va falloir que je casse la distance. C'est tout bête, mais par exemple, quand vous êtes allongé sur le sol, sur le dos, et que vous avez un agresseur qui est au-dessus de vous, si vous le serrez contre vous, il ne va pas pouvoir bouger. À partir de là, on va pouvoir mettre en place d'autres choses. Et c'est là que mes cours vont intervenir sur, par exemple, comment renverser la situation, comment étrangler la personne, comment faire que... Et par contre, dès que j'ai la possibilité de créer de l'espace, je vais fuir. Donc en fait, quand j'attaque, je vais coller la... Quand je veux me défendre, je vais coller la personne. Et à partir de là, je vais avoir le temps de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire et ensuite fuir. Mais pour en revenir un petit peu à l'action, je suis une vraie pipelette, hein, je m'égare.
Non, c'est hyper intéressant.
Et en fait, elles viennent toutes avec cette problématique-là de besoin d'évacuer, besoin d'activité physique, envie de perdre du poids, parce que le MMA, c'est une séance où on va brûler entre 500 et 800 calories en 1h30 de
D'accord.
pratique. Donc, voilà. Et on sait très bien que chez la femme, la confiance en soi, le baromètre de la confiance en soi, il augmente un petit peu dès qu'on voit 800 calories brûlées, tout ça, on se dit c'est chouette. et c'est en fait, c'est après, quand je vais discuter avec ces femmes-là, que je vais réaliser tous les problèmes sous-jacents et en fait la réalité qui a fait qu'elles ont poussé un petit peu cette porte-là, et qu'elles sont aussi venues vers moi parce que cette image que je peux dégager sur les réseaux sociaux leur donne confiance. En fait, elles ont envie d'être aussi fortes que moi.
Oui.
Et elles se disent, si je veux être forte, il faut que je m'entraîne avec quelqu'un de forte, sans savoir que moi aussi, j'ai mes propres faiblesses. Et en fait, j'ai réalisé toutes ces problématiques-là quand j'ai organisé un voyage en Thaïlande. Donc, je dis aux filles, écoutez, moi, pendant 15 jours, je pars en Thaïlande. Je vais m'entraîner, je vais faire un camp d'entraînement. Et là, elles m'ont toutes dit, ouais, attends, trop bien, Jen, est-ce qu'on peut venir avec toi? Nous aussi, on veut faire de la boxe.
Ouais.
Je dis, bah, génial, ok. Donc, je leur ai trouvé une petite salle pour débutants en Thaïlande. Et moi, j'allais faire des camps d'entraînement pro MMA dans des salles qui sont réputées à Phuket. Et je me suis retrouvée en face de Nana, mais qui était, moi, ça m'a fait, je crois que c'est le plus beau souvenir, moi, quand on en arrive là professionnellement et de se dire, je suis partie avec des nanas qui ne savaient pas faire de boxe. Aujourd'hui, elles sont en train de kiffer en Thaïlande, et quand elles arrivent dans les salles pour faire du Muay Thai avec les mecs, elles ont des étoiles dans les yeux, et c'est génial. Ouais. Et c'est après, quand on est sur la plage et que je discute un petit peu plus avec chacune d'entre elles et que j'apprends à les connaître un petit peu plus, parce qu'il y a le côté vacances détente, en fait, je réalise que la plupart des femmes ont des problématiques et elles vivent des choses qui sont très, très compliquées, très, très dures à vivre. Et que ce sport, le MMA ou la boxe, là, quand on est en Thaïlande, ça leur fait un bien fou parce que elles ont le sentiment qu'elles deviennent de plus en plus fortes. Moi, j'ai des nanas qui m'ont dit j'ai réussi à partir, à quitter et à faire ma vie. Je me rappelle aussi de cette jeune fille qui était agressée sexuellement par son père, qui vivait un drame horrible avec sa sœur dans la maison et qui a fini par me dire un jour où elle arrive à l'entraînement en séance privée. Elle me dit, JN, j'ai réussi. Avec ma sœur, on s'est barré, on vient d'avoir notre appartement, on a réussi à quitter. Et cette force, c'est toi qui nous l'as donnée. Et ce jour-là, moi, il faut que je reste forte devant la jeune fille parce que toutes les semaines, je l'ai au téléphone pour être sûre que tout va bien. Parce que tu te dis, mais comment je peux la laisser dans ce
lieu-là ? C'est ça. Il y a un accompagnement psy aussi qui se met en place naturellement. Parce que quand on dit ça, c'est dur de...
Ah oui, c'est dur. Et quand elle me dit ça, mais je... Je lui dis, ah, super et tout, machin. Je lui dis, attends, excuse-moi, je reviens dans 5 minutes, j'ai besoin de passer un appel. Et en fait, je sors de la salle parce que j'ai besoin de pleurer. Et je me dis, mais waouh, quoi. J'arrive à faire des choses comme ça et c'est extraordinaire. Après, toutes les femmes n'ont pas des problèmes d'agression, de violence, etc.
Oui, mais, malheureusement.
Mais très souvent, il y a quelque chose de caché derrière, un peu comme moi, quand je rentre dans une salle la première fois pour prouver que... Ouais, je suis une meuf, mais je suis balèze, en fait.
Ouais, complètement. Mais ça rejoint la dernière partie, justement, que je voulais aborder avec toi. Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais dans ces sports, on voit beaucoup l'action, la violence, mais il y a d'autres, donc on en a parlé tout le long, hein, mais il y a d'autres valeurs très fortes de dépassement de soi derrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ce sport vous a appris et que vous pouvez retranscrire, en fait, dans votre vie personnelle, professionnelle, sur la capacité à oser, donc comme vous le venez de dire, prendre des décisions, quitter des situations qui ne nous vont plus. Je sais pas si vous pouvez vraiment un peu développer ce point-là.
Ouais, alors en fait, il faut comprendre une chose, c'est quand on boxe, quand on est en face de quelqu'un, face à un adversaire, en fait, très souvent, on est face à soi-même. Parce que les réactions qui vont être impliquées par l'adversaire à ce moment-là, ça va induire des choses en nous. Et soit on est capable d'analyser la situation, soit on laisse son ego prendre le dessus, son orgueil prendre le dessus. Et c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, en fait. Si à chaque fois qu'on est piqué et qu'on agit uniquement par orgueil, très souvent on prend les mauvaises décisions. Alors que si on est capable d'analyser la situation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, être capable de se centrer sur ce qu'on sait faire et du coup appliquer ce qu'on sait faire de manière à ce que ce soit la meilleure réponse possible et de manière à ce que ça m'apporte de la réussite, c'est ça aussi que ça va entraîner le fait d'avoir quelqu'un en face de soi et d'avoir une opposition. Donc dans la vie de tous les jours, c'est vrai que moi, ça m'a permis de m'apaiser, d'être capable de prendre du recul, d'être capable d'analyser des situations et de trouver un petit peu la bonne solution. En fait, les sports de combat, tout le monde voit le côté violent parce qu'on voit le côté médiatique. Donc les chaînes de télé, l'UFC, tout ça, quand ils mettent en place leur show, il faut que, un peu comme le catch, il faut que ça apporte du pay-per-view, il faut que ça apporte de la visibilité. Et si on met deux mecs qui se touchent à peine, et ça va pas intéresser les gens. Donc on va vraiment faire des gros shows, des gros spectacles. Mais moi, ce que je vois derrière, en fait, le MMA ou la boxe ou le grappling, en fait, c'est un jeu d'échecs avec les bras et les jambes. Donc, c'est tout ce côté-là qui va être un petit peu développé et exacerbé avec ces pratiques. Et après, il y a le côté aussi confiance en soi. Le fait de pouvoir tenir tête, parce que c'est un petit peu ça, tenir tête à n'importe quel adversaire. Il y a une photo sur Instagram où je suis en face d'un partenaire d'entraînement qui fait 1m95, 115 kilos. Ouais. Et je suis en face. Et c'est pas grave, en fait. Parce que, parce qu'à un moment donné, j'ai des atouts face à ce grand personnage et je vais pouvoir mettre en place mon jeu. Et les sports de combat, pour moi, quand on dit c'est l'école de la vie, on a l'impression que c'est un petit peu, ouais, c'est bon, c'est, on l'a déjà tous entendu, mais pour une femme, c'est vraiment l'école de la vie. Mais vraiment, parce que quand on arrive à tenir tête à ces mecs-là dans la salle, parce que c'est des mecs qui ont quand même, on va pas se voiler la face, hein, la vision qu'ils ont de la femme est quand même très, c'est un peu la vision qu'on a des femmes dans les clips, hein, c'est très sexualisé, c'est très,
ouais.
C'est très voilà, rôle social primaire, faire à manger et faire les courses.
Ouais.
Et tenir tête à ces mecs-là et être en opposition, c'est un petit peu tenir tête à tout ce qu'on nous a interdit, en fait. Pour moi, c'est un peu braver tous les interdits, tout ce qu'on m'a pas laissé faire. Donc c'est un petit peu moi, c'est un petit peu ça m'a appris la résilience, toujours se relever. C'est pas la fin du monde, en fait. À accepter aussi que quelquefois ça puisse être dur, accepter que on va se prendre des coups, qu'ils soient, moins que ce soit au premier degré ou au second degré, et qu'au final c'est pas grave. Oui. il y a plus important, et le plus important, ça va être le process, comment tu fais pour te relever de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça n'arrive plus, quel cheminement tu vas prendre, comment tu vas t'organiser, et tout ça, c'est des logiques qu'on apprend un petit peu grâce au sport de combat, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le bouquin L'Art de la Guerre.
Ouais, ouais, trop bien.
Voilà.
Ok. c'est passionnant. Je vais finir sur une dernière question avant de vous poser les questions que je pose toujours en fin d'interview. Vos prochains défis personnels et professionnels?
Ah, alors ça, c'est une grande... En ce moment, je suis en pleine remise en question. Alors, mon prochain défi, ce sera de créer ma salle, d'ouvrir ma salle de coaching, de sport de combat, mais cette fois-ci, non pas dans l'associatif, mais dans le privé. Une salle très haut de gamme. Très haut de gamme, très girly aussi. Je veux que les femmes se sentent à l'aise. Et c'est un concept que j'aimerais énormément exporter... pourquoi pas à l'étranger, notamment Oman ou les Émirats, ou voilà, je pense que il y a une catégorie de femmes là-bas qui se cache un petit peu derrière le côté financier et qui vivent des choses pas très cool, et j'ai envie de leur apporter ça, même si elles le disent pas, hein. C'est vrai que quand on vit là-bas et qu'on... Je me dis qu'il y a des choses à faire. Alors, je pourrais le faire dans les pays du Maghreb aussi, pourquoi pas. Mais après, il y a le côté, le côté challenge. C'est peut-être plus compliqué de s'adresser. Enfin bref, ça, je verrai quand j'y serai. Ouais. Donc ça, c'est une salle à Paris, une salle à Lyon, si je peux, et après m'exporter.
D'accord.
Et après, au niveau sportif, bon, là, je vais avoir 39 ans. Non, je vais avoir 40 ans. Je vais avoir 40 ans. Donc, sportivement, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Pourquoi pas faire une dernière compète en grappling comme ça pour le fun. Mais je crois que je suis arrivée à bout. Mais par contre, je vais continuer de pratiquer. Hein. Je pense qu'à 80 ans, vous me verrez encore dans un ring. Face à des petits jeunes.
Et d'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais vous pensez que c'est compatible, du coup, cette vie de sport de combat avec des enfants, avec une vie de famille?
Oui, c'est compatible. Les combattants de l'UFC nous le prouvent aujourd'hui. Dans le top 5 des combattants de l'UFC, on a, chez les femmes, en fait, on a une, deux, trois femmes qui sont mamans. Qui sont mamans, il y a même des femmes qui sont gays et qui ont adopté des enfants, et donc oui, pour moi c'est pas incompatible, et aujourd'hui la société arrive enfin à comprendre que ouais, c'est pas incompatible, et que la carrière d'une femme ne s'arrête pas après une grossesse. On peut retrouver son niveau mondial comme avant d'avoir un enfant, et heureusement qu'il y a plein de femmes qui le prouvent, comme Serena Williams, comme là-dessus, on est sur sur la bonne voie. Donc, donc professionnellement, ce serait ça, ouvrir ma salle. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire allez, d'ici 2 ans, grand max.
Ouais.
Donc là, je suis dans la construction du business plan, tout ça.
D'accord.
Et après, ce serait aussi développer un petit peu ce côté consultante que... Là, j'ai eu mon premier poste en tant que consultante sur une émission sport à la radio et j'aimerais beaucoup avoir d'autres opportunités dans ce milieu-là. Donc là, je travaille pour aussi. Je suis en train de me former, reprendre le temps d'écrire aussi des articles, ce genre de choses. Parce qu'au final, quand on est dans l'éducation nationale, on est très monotâche, enseigné. Donc même si on s'est enseigné plein de choses différentes, et il y a plein de trucs que je sais plus faire ou que j'ai oublié de faire. Pourtant, dans ma formation, moi, j'avais passé un bac éco avec option Sciences Po. Et donc, l'écriture, les sujets sociaux, etc., c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Mais c'est un petit peu ça. Mes grands défis, c'est ouvrir ma salle et m'imposer en tant que consultante ou chroniqueur sport ou bien-être à la radio,
dans les médias,
à la télé, voilà.
D'accord, bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va finir par des petites questions d'ordre plus général. Donc, vous devez essayer de répondre assez rapidement. Quelles sont les questions que l'on vous pose le plus en général, que ce soit dans vos coachings, mais également sur vos réseaux sociaux?
Ah, c'est très souvent, on me demande, mais comment tu fais? Tu ne t'arrêtes jamais? Est-ce que ça t'arrive de te reposer? Et est-ce que, on me demande aussi, est-ce que ça fait mal quand tu es en face de quelqu'un et que tu t'entraînes? Donc, c'est souvent les questions qu'on me pose.
D'accord. Et vos réponses, du coup, que vous formulez?
Est-ce que je m'arrête jamais? En fait, j'ai pas l'impression de travailler. Quand je passe une journée, j'ai pas l'impression d'être au travail. C'est que de la passion. Je m'éclate avec mes clients, je m'éclate avec mes étudiants. Donc, moi, j'ai pas l'impression de faire un truc de fou. J'ai pas l'impression de.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est assez facile. Et après, est-ce que ça fait mal de combattre? J'ai envie de dire, tomber dans la rue, ça fait mal. Donc, combattre, oui, ça peut faire mal, mais il faut le prendre du bon côté. C'est du sport, c'est pas une agression dans la rue, en fait. Il y a des codes, il y a des règles. Moi, je me suis jamais battue dans la rue. Et je saurais pas me battre dans la rue. Mais par contre, quand je suis dans. C'est un sport, en fait. C'est pas de la bagarre. Même si je kiffe la bagarre.
Votre plus grande peur?
Ma plus grande peur, moi, c'est de rater les choses, c'est l'échec. C'est pour ça aussi que je mets du temps à lancer et à créer ma salle, parce que j'ai cette peur de l'échec. Il faut prendre des risques dans la vie. Le risque, c'est quand même moi je vois ça, prendre des risques, c'est un comportement volontaire. Donc j'ai envie de prendre ces risques. Je sais qu'il peut y avoir des conséquences négatives, mais en face, j'ai quand même l'espoir d'avoir cette salle et cette ouverture de salle. Donc ma plus grande peur aujourd'hui, c'est toujours cette peur de rater les choses, de l'échec. Mais parce que j'ai grandi comme ça avec quelqu'un qui m'a toujours comparé aux autres. Et elle a fait mieux que toi, et elle est machin. Et je me dis merde, et c'est un petit peu resté. Donc je travaille dessus en ce moment. Mais c'est un petit peu ça ma peur, l'échec.
Vos citations préférées?
Alors moi j'aime beaucoup déjà j'ai ma devise à moi que je donne toujours à mes clients, persuade ton esprit que tu peux le faire et ton corps suivra. Donc ça c'est quelque chose un petit peu qui tous les jours me motive. J'aime beaucoup la citation de Sénèque aussi, qui dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, mais c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles.
Oui.
Donc voilà. J'aime bien aussi une citation de Marilyn Monroe. Ça fait un petit peu. Mais parce que ça me représente aussi quand elle dit je ne me soucie pas de vivre dans un monde d'hommes si je peux y être en tant que femme. Et je crois que ça aussi, ça me représente bien parce que je suis quelqu'un de très féminine, de très femme, de très. Mais je suis comme un poisson dans l'eau dans ce milieu d'hommes.
Ouais.
Donc voilà.
Vos routines pour rester en forme physiquement et mentalement?
Moi, c'est me lever le matin et aller faire un petit footing à jeun entre 20 et 40 minutes. C'est ma petite routine bien-être avec une playlist où, en fait, quand on me croise, quand je suis en train de courir, on me prend pour un peu une dingote parce que je cours, je chante et je danse en même temps, les trois.
Ouais.
Donc ça c'est ma routine bien-être à moi. Et là c'est vrai que ça fait un bout de temps que je suis pas allée courir parce que je suis blessée au genou et c'est quelque chose qui me manque.
De tout ce que vous avez appris dans votre courte vie, si vous n'aviez à retenir qu'une chose.
Que je suis forte. J'en ai douté pendant très longtemps. Parce que quand on me voit comme ça, on a cette apparence-là, mais je me suis quand même construite dans le doute. Le doute de mes performances, le doute d'être une femme, le doute. Mais en fait, au final, je réalise que je suis quelqu'un de forte et que si j'ai réussi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mon travail et à ma motivation. Et en fait, je ne devrais pas avoir peur et je devrais continuer de me lancer à chaque fois parce que tout ce que j'entreprends, je le fais très bien. Et ouais, je crois que si j'avais une chose à retenir, ça fait un peu égocentrique de ramener ça à soi, mais en vrai,
non, mais c'est important.
Je réalise aujourd'hui, notamment avec tous les interviews et les podcasts que j'ai pu faire ces derniers temps, ouais, je suis forte et il faut pas que j'en doute en fait.
Voilà. Et ma dernière question rituelle du podcast, quelle est votre définition du risque et selon vous les risques nécessaires pour vivre pleinement?
Ah, alors on en a un petit peu parlé, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, moi j'aime bien ce que disait Timothy Irvine sur le risque quand il dit que c'est un comportement qui est volontaire, dont les résultats sont incertains avec une possibilité de conséquences négatives, mais dans l'espoir d'obtenir des bénéfices. C'est ça le rapport au risque en fait. C'est de se dire qu'en fait si on prend pas de risque dans la vie, on va passer à côté de plein de choses, on va rater plein de choses. Et prendre des risques, ça veut pas forcément dire se mettre en danger. Prendre des risques, c'est avoir la volonté d'obtenir quelque chose de meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Et le risque, il est nécessaire. Quand on regarde comment un enfant se construit, on voit que la construction de l'enfant, elle se fait à travers le risque. Et c'est indispensable à la construction d'un enfant. Et quand on est enfant, on joue avec ce risque. Et quand on grandit, on est de plus en plus craintif. On a perdu un petit peu cette âme d'enfant et de se dire, advienne que pourra. Mais il faudrait en fait continuer à fonctionner comme les enfants quand ils ont cette âge.
Comme les enfants, exactement.
Ouais, ils veulent sauter par-dessus des trucs parce qu'ils sont dans la défiance entre guillemets de la mort. Donc ça, c'est une étape dans la construction motrice des enfants, et on devrait garder ce risque, parce que pourquoi un enfant évolue, c'est quand il grandit dans un milieu riche et qui peut justement aller explorer. L'exploration des extrêmes, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, notamment chez les enfants, et c'est un peu comme ça qu'on devrait continuer de voir le risque en positif.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup, JN, pour cette interview. Et puis, à bientôt.
Ouais, merci beaucoup, Laura. À très bientôt.
À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode.